Avec les mots bleus, nous avons à cœur de soutenir la recherche médicale. C'est pourquoi nous nous sommes associés avec Compare Dépression, une plateforme de recherche publique collaborative. Si vous vivez ou avez vécu une dépression, nous vous invitons à vous inscrire sur compare.aphp.fr pour faire avancer la recherche. Retrouvez le lien dans la description de cet épisode. Merci.
Place des sciences.
Avant de nous plonger dans ce témoignage, nous tenons à vous informer que le sujet d'aujourd'hui traite de questions sensibles. Nous allons aborder les thèmes du suicide et du harcèlement scolaire. Si vous êtes en situation de souffrance, nous vous invitons à reporter votre écoute ou à être accompagné dans ce moment. Dans cet épisode, nous rencontrerons Agathe, une jeune femme qui nous partage son histoire personnelle. Agathe a perdu sa sœur il y a quelques années. Sa sœur Diane s'est enlevée la vie sur fond de traumatismes liés au harcèlement scolaire qu'elle a subi quand elle était adolescente. Agathe a alors entrepris une quête d'informations pour comprendre ce qui est arrivé, cherchant des réponses dans les carnets que sa sœur a laissés derrière elle. Elle qui souhaitait devenir écrivaine. Agathe partage avec nous cette façon de gérer son deuil et de trouver un sens à une perte aussi dévastatrice. Elle souhaite lancer l'alerte sur les conséquences à long terme du fléau du harcèlement scolaire. Si vous avez des pensées suicidaires, nous vous invitons à composer le 3114 ou le 15 en cas d'urgence. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Agathe.
Bonjour.
Merci de t'être proposée pour participer à cette émission. J'aimerais commencer par une phrase que j'ai lue sous ta plume qui est « Les mots peuvent tuer ». Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu voulais dire par là ?
Alors en fait, on a repris cette phrase, mais ça vient d'un texte de ma sœur. Et on l'a repris parce que c'est un texte que moi j'ai trouvé assez combatif, dans le sens où c'est dans une lettre qu'elle envoie à l'académie, en leur expliquant qu'elle est victime de harcèlement scolaire. Et que même si en ce moment elle en est victime, elle se rend compte que ça touche beaucoup de personnes autour d'elle et qu'elle veut partager son expérience pour qu'il y ait une prise de conscience finalement autour du harcèlement scolaire en leur disant « Attention, moi je viens d'un environnement privilégié, dans un collège sans histoire où tout a l'air de se passer bien et voilà ce que je vis. Personne ne semble vraiment le voir et je pense que ça arrive à énormément d'autres jeunes. » Et en fait, j'ai trouvé que cette lettre était vraiment combative. Malheureusement, l'académie n'a pas répondu à cet email qui a été envoyé, mais j'ai trouvé que les mots étaient très forts. Et c'est en fait dans le texte entier, tu vois, donc ça commence en disant les mots peuvent tuer, mais à la fin, elle dit les mots peuvent soigner aussi. Et ça, c'est vraiment un message d'espoir.
Donc cette histoire de ta sœur et de ta famille, tu l'as publiée dans un livre récemment qui s'appelle Le Livre de Liane. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ton enfance avec ta sœur qui s'appelle Diane ? Tu parles de harcèlement scolaire ? De mots qui peuvent tuer, de mots qui peuvent soigner. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'enfance que vous avez connue ensemble pendant cette période de harcèlement que tu ignorais peut-être ?
Nous, on a une enfance assez paisible. J'ai grandi près de Toulouse. On avait des parents qui étaient très disponibles. Beaucoup d'amis, une grande maison avec un joli jardin. On était vraiment très bien entourés. Moi, j'ai vraiment eu une enfance exceptionnelle, en fait. On allait à la piscine, on partait au ski, on faisait du jardinage. Enfin, c'était génial. Et on était tous les trois très proches. Je viens d'une famille de trois filles, donc on se prêtait nos affaires. Enfin, c'était chouette, quoi. Et c'est vrai que c'était beaucoup de bonheur. Et je pense que c'est peut-être ce qui l'a aidé aussi à tenir quand plus tard ça a été plus compliqué pour elle d'avoir reçu tout cet amour au début de sa vie.
Et toi, du coup, tu étais dans la même école qu'elle. Vous avez quel âge de différence ?
On a 4 ans de différence. Donc j'ai été au collège, par exemple, en même temps qu'elle, mais au lycée, c'est que 3 ans. Donc j'étais partie au moment où elle est arrivée.
Et le harcèlement scolaire dont a été victime Diane, il a commencé à quel âge ?
Alors en fait, ça a commencé en 6e. Mais moi, à cette époque, je ne le savais pas. En fait, personne dans la famille le savait. Ça a commencé en 6e, mais en fait, on l'a su parce qu'elle écrivait dans son journal intime. Comme ma sœur voulait être écrivaine, elle écrivait tous les jours. Elle écrivait beaucoup et donc elle raconte en fait pas harcèlement scolaire, elle raconte juste son quotidien de jeune fille qui rentre en sixième. Et en fait, ça commence un peu avec des inquiétudes, genre est-ce que ma classe va être bien, est-ce que je serai avec ma copine, est-ce que mes amis seront tous là ou est-ce qu'on va être séparés. Enfin, des petites inquiétudes qu'on a tous quand on rentre en sixième. Et en fait, au fur et à mesure, elle raconte ce qui se passe et on sent en fait, parce qu'on lit avec des yeux d'adulte, que la situation est en train de se dégrader, mais elle en prend conscience plus tard et tu vois en fait l'évolution de la personne. Et pour moi, qui n'ai pas vécu du harcèlement scolaire, ça m'a vraiment permis de comprendre bah, qu'est-ce que c'était et où était le problème en fait. Puisque quand tu ne l'as pas vécu, tu as l'impression que, bon d'accord, on s'est moqué de toi quand tu étais jeune, mais enfin, comment tu peux en arriver à te suicider par rapport à ça? Enfin, ça paraît impossible en fait. Enfin, c'est inconcevable, ça a l'air d'être deux extrêmes. Et donc, tu as vraiment besoin de ces textes qui te racontent en fait l'évolution, la mise en place de cette spirale, comment tu arrives à plus t'en sortir, comment ça t'empêche de te construire en tant que personne. Et là, tu comprends en fait que c'est vraiment ton identité qui est touchée et que c'est pas juste des moqueries, mais que c'est vraiment des retours négatifs qui t'empêchent de te construire parce que tu as besoin du regard des autres et que ce regard des autres, ben, tu l'as pas en fait.
Là, tu nous parles de moqueries, de commentaires à connotation négative. Quels étaient les autres comportements finalement auxquels elle a été confrontée durant cette période de harcèlement?
Alors, en fait, au départ, c'était des commentaires d'une seule personne. C'est-à-dire qu'il y a cette jeune fille, je ne sais pas vraiment, je n'ai pas vraiment d'explication, mais en tout cas, elle commence à se moquer un peu de ses lunettes, du fait qu'elle ait des bonnes notes, parce que malheureusement, quand tu es très brillant en cours, ben, ça crée sûrement des jalousies. Et puis, le groupe suit. En fait, et commence à se moquer régulièrement de la même personne. Et puis forcément, bah, ça se diversifie, entre guillemets, dans le sens où après, bah, quand on a les cheveux bouclés, quand c'est jamais trop parfait, il y a toujours un peu des frisettes ou quoi, bah, c'est sujet aussi de moquerie. Et puis après, on critique son poids, alors que franchement, elle n'avait pas de problème de poids. Mais c'est vrai que souvent, quand tu t'assois, tu sais, avec ton pantalon, ça fait un petit bourrelet, bah, y a toujours quelque chose à commenter, en fait. Et donc, ça commence comme ça, et puis ça se met en place, en fait, et c'est tous les jours. Et du coup, c'est vachement dur à lire parce que tu te rends compte en fait que c'est quotidien. Et au départ, elle dit « j'essaie de garder la face, de sourire, tout ça ». Alors, je ne sais pas pourquoi il faudrait garder la face, tu vois. Tu peux aussi être vulnérable et dire ben, « c'est dur ». Mais elle écrit et je pense que si je montre que c'est dur pour moi, ça va leur faire trop plaisir et ça va être encore pire. Donc, elle essaye de montrer que ça ne la touche pas. Comme la victime ne se défend pas, ben, le groupe est encore plus agressif. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, 2 ans plus tard, donc autour de la cinquième, les élèves apprennent, je ne sais comment, qu'elle est homosexuelle. Et donc là, forcément, donc, retour de moquerie encore plus agressive. Et ses amis ne veulent pas rester avec elle parce qu'elles se disent, on va être aussi sujet de moquerie. C'est plus que des moqueries, en fait. C'est de l'homophobie. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas autant de sensibilisation qu'aujourd'hui, je pense. Et il n'y a personne qui a mis le haut là. Elle est allée voir les infirmières. Elle allait voir les enseignants. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment un problème systémique. C'est qu'en fait, le problème, ce n'est pas juste le harceleur. C'est toute l'équipe pédagogique qui n'avait pas été formée. C'est l'infirmière, c'est le rectorat. Quand ils reçoivent des choses comme ça, ils devraient y avoir un système qui fait qu'ils réagissent. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc, ce harcèlement continue jusqu'au lycée. Et comme on le sait, quand tu arrives au lycée, tu es une fille, ton corps, il change, il évolue. Et donc, elle commence à prendre des formes. Et c'est hyper paradoxal parce que moi, j'ai toujours été jalouse en fait, du fait qu'elle ait plus de poitrine et tout ça. Je me disais, moi, ça pousse pas. Enfin, pourquoi? Et en fait, je me rendais pas compte que ça la désignait comme cible, en fait, de moquerie sexiste. Et forcément, au bout d'un moment, il y a des agressions sexuelles qui arrivent et elle sait toujours pas. Quand t'as pas appris à t'exprimer, quand t'as toujours été habituée à encaisser sans parler, et c'est encore plus dur. En fait, tu te construis en disant je peux pas parler parce que ma parole n'a pas de valeur. Enfin, comme elle écrit dans ses textes, et elle en parle bien, elle dit j'arrive plus à m'exprimer en fait. J'arrive plus à dire ce que je vis. Je me sens pas légitime. Et c'est pas juste parce qu'en fait, moi, je tiens un compte Instagram qui s'appelle Agathe en parle et je reçois beaucoup de témoignages et c'est en fait malheureusement souvent les mêmes choses qui reviennent. C'est des victimes qui me disent je vis ça mais je me sens pas légitime en fait pour recevoir de l'aide, pour demander de l'aide. Il y a une jeune fille qui m'a écrite, ça m'a beaucoup interpellée. Elle me dit je suis assez ronde. Alors c'est celle qui le dit, je l'ai pas vue, mais elle raconte, elle dit les enfants en cours me piquent avec une aiguille pour me faire dégonfler et ça fait des mois que ça dure. J'en souffre. Mais après, elle me dit « Mais c'est pas comme ta sœur, j'en suis pas là. Finalement, moi, ça va. » Alors qu'en fait, en tant qu'adulte, tu dis « Non, ça va pas, en fait. Mais voilà, il y a énormément de victimes qui se sentent pas légitimes parce que, en fait, quand c'est harcèlement, il n'y a pas beaucoup de traces, en fait. Et donc, t'as pas de preuves, entre guillemets. Et c'est assez dur, en fait, de se dire que t'es légitime même si t'as pas de preuves et si t'as pas de séquelles physiques à exposer.
Est-ce que tu penses aussi que c'est cette absence de preuves et de séquelles à montrer qui a fait qu'elle n'en a pas parlé finalement au sein de la famille?
Ça reste une théorie, mais je pense qu'elle n'en a pas parlé parce qu'elle a eu cette démarche d'aller chercher de l'aide auprès de professionnels qui étaient formés pour l'aider. Et quelque part, possiblement, j'aurais eu la même réaction. Dans le sens où c'est un peu délicat. Enfin, tu ne sais pas comment ta famille va réagir, mais possiblement, ils vont juste te demander est-ce que ça va tous les jours. Surtout quand tu es un adolescent, donc à l'époque où elle s'est suicidée, elle avait 21 ans. Elle habitait toute seule dans un appartement, comme beaucoup d'étudiants, en fait, quand la vingtaine. Et donc, si tu annonces à tes parents que tu as fait des tentatives de suicide, que ça ne va vraiment pas, que tu es déprimée, que tu as des phobies, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont t'envoyer des messages tout le temps, peut-être. Ils vont être hyper intrusifs. Ils vont avoir leur propre angoisse qu'ils vont projeter sur toi. Enfin, tu ne sais pas, en fait. Donc je peux comprendre cette démarche, même si moi, ça me brise le cœur de me dire qu'elle aurait pu m'en parler, qu'elle m'en a pas parlé, surtout qu'on était très proches. Mais je peux comprendre cette démarche parce que je pense que j'aurais eu la même, en fait. Me dire, je vais chercher de l'aide auprès de psychologues si j'ai besoin d'un suivi psychologique, auprès d'un commissariat si j'ai besoin de déposer plainte, auprès du rectorat si je veux changer les choses administrativement et politiquement. Enfin, ça a du sens, en fait. Mais malheureusement, elle aurait eu du soutien. Peut-être, si elle nous en avait parlé, j'espère qu'on aurait bien réagi, même si c'est vrai que quand t'es pas formé, tu peux très bien dire la mauvaise chose au mauvais moment.
Et finalement, elle est quand même allée voir des personnes que tu dis qui étaient formées, mais il n'y a pas eu de réaction derrière, que ce soit du corps enseignant, de la médecine scolaire, etc. Comment est-ce que t'expliques justement qu'il n'y a pas eu de suite donnée à ça?
Je pense qu'ils l'ont pas forcément pris au sérieux, parce qu'ils se rendaient pas forcément compte de l'impact que c'était. Et je te dis ça parce que en tant que personne qui n'a pas vécu un harcèlement scolaire, bon, de temps en temps, j'en entendais parler aux journaux et tout ça, et je me disais que peut-être qu'on en faisait trop sur ce sujet-là. Peut-être que les gens pouvaient passer un peu à autre chose, si ça s'était passé il y a longtemps, pardonner, avancer. Enfin, en fait, quand tu te rends pas compte qu'on parle pas juste de quelques moqueries, mais vraiment de quelque chose qui te blesse profondément et qui va te blesser souvent, enfin, c'est des blessures que tu portes à vie, en fait. C'est pas comme un grand brûlé, tu vois, où là, tu dis, effectivement, il faut l'aider. Là, si t'es pas sensibilisé, tu te rends pas compte, tu peux passer à côté du sujet, en fait. Si t'as rien, si t'as pas de moyen de le rattacher à ce que t'as vécu, toi, tu peux passer à côté du sujet. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un petit peu pédagogique aussi de lire ce journal intime. Ça m'a expliqué, en fait, à côté de quoi j'étais passée et pourquoi, en fait, tu peux en arriver à te suicider après un harcèlement scolaire.
Tu parles aussi souvent d'un paradoxe entre le fait que pendant les années justement où elle a subi le plus gros du harcèlement, donc pendant le collège et le lycée, il y avait quand même cette mise en retrait, une sorte de pudeur par rapport à tout ça qui faisait qu'elle n'en parlait pas forcément, qu'elle n'allait pas forcément chercher de l'aide outre mesure. Et c'est le fait finalement qu'elle devienne adulte, qu'elle entre dans la vie universitaire et finalement qu'elle se départisse un peu de cette ambiance de harcèlement qui a fait qu'elle a commencé à aller chercher de l'aide. Comment est-ce que tu expliques justement ce décalage temporel?
Moi, de ce que je lis des textes, mais après, t'as lu les mêmes dans le livre, en fait, puisque je les partage tel quel, mais c'est que la violence de ce qui s'est passé s'est décuplée au moment où elle s'est retrouvée toute seule. Parce qu'en fait, tant que t'es avec un harceleur, tu dis c'est eux, en fait, le problème. Et quand t'es tout seul et que tu vois que ça va toujours pas, c'est encore plus dur, en fait. Surtout, je pense, de vivre tout seul avec des phobies. J'ai l'impression que c'est vraiment ce moment-là où le harcèlement s'est arrêté, mais les phobies commencent à se développer. La peur d'aller en cours, même si les gens sont bienveillants. En fait, c'est plus justifié. Tu as le droit de te dire « j'ai peur d'aller en cours parce que les gens vont être agressifs avec moi ». Mais quand tu dis « j'ai peur d'aller en cours alors que les gens sont bienveillants », en fait, ça te rejette, entre guillemets, la responsabilité. Et je pense qu'elle a eu une bonne démarche d'aller voir des psychologues à ce moment-là. De contacter des CMP, déjà de savoir qu'il y a des CMP où tu peux avoir un soutien psychologique qui est anonyme et gratuit. Mais moi, j'en savais rien, tu vois. Donc, d'avoir la démarche de les contacter, d'aller porter plainte, même si son expérience de plainte s'est pas très bien passée, le courage d'aller faire ça, ça te permet en théorie d'avancer. Et puis après, effectivement, je pense que quand t'es prêt, t'es en proie à des terreurs nocturnes, tu peux pas dormir, tu peux pas te reposer, je pense que c'est là que c'est dur, en fait.
Donc tu nous dis que quand elle a eu 21 ans, elle s'est enlevé la vie. Toi, à ce moment-là, tu étais à Singapour.
Ouais.
Comment est-ce que tu as vécu cette annonce de la part de ta famille? Comment ça s'est présenté à toi et comment est-ce que tu as réagi sur le moment?
Ben, ça va te paraître très bizarre, mais en fait, sur le coup, j'étais pas triste. J'arrivais juste pas à comprendre, en fait. C'était une sorte de phase de déni qu'on décrit souvent, mais quand tu le vis, ben, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, t'as l'impression que c'est pas vrai. Et t'es un peu, genre, un peu sonné, mais pas encore dans l'émotion ou dans la tristesse. En fait, t'es plus déconnecté. Mais je pense qu'on réagit tous de manière très différente. Il y a beaucoup de membres dans ma famille qui ont, par exemple, fondu en larmes ou qui ont crié. Ou... Donc, en fait, c'est... Je pense que c'est des réactions qui sont assez instinctives. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est vraiment dans l'action, dans faire les choses. Donc, ma priorité, c'était plus de trouver un avion pour rentrer, tu vois. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'allais rentrer pour aller aider ma sœur et que je pourrais régler le problème. C'est idiot, tu vois. Mais tu te dis, ben, je vais y aller et puis on trouvera bien une solution. Alors qu'en fait, ben, t'as pas de solution, c'est déjà trop tard. Mais c'est assez dur d'arriver à comprendre que c'est déjà fini quand c'est le suicide de quelqu'un qui allait bien. Enfin, tu pensais qu'il allait bien, tu vois. Et puis surtout, quand tu passes des vacances ensemble, ou tu t'amuses, ou tu vas boire des verres, ou quand tu vas danser, tout ça, t'as pas l'impression, en fait, que ce soit possible. Et c'est ça, en fait, je pense, qui est le plus terrifiant, c'est que tu te rends compte qu'en fait, tous les gens qui ont l'air d'aller bien autour de toi, possiblement, ils sont en train de vivre des périodes extrêmement difficiles de leur vie, ils sont à deux doigts de craquer. Il y en a plein qui m'ont dit, ben, moi, j'ai fait une tentative de suicide, et que je connaissais depuis très longtemps, qui faisait partie de mon entourage, qui étaient mes voisins, et qui m'en parlaient parce que j'ai sorti ce projet, mais sinon, ils ne me l'auraient jamais dit. Et je n'aurais jamais imaginé qu'autant de personnes et de profils différents que je connaissais directement avaient vécu des situations aussi difficiles. Il y a un tabou autour de ça.
Et tu l'as appris de quelle manière? Parce qu'il y avait quand même un décalage horaire, un décalage géographique entre, finalement, entre la France et Singapour. Comment est-ce que dans... En plus, c'était le jour de son anniversaire.
Ouais.
Comment est-ce que tu as justement reçu cette nouvelle? De quelle manière?
T'as un décalage, en fait. Entre, enfin, tu vois, j'avais acheté des chocolats pour aller au bureau avec le lendemain. Enfin, tu vois, t'as un décalage entre le fait que t'attends un appel qui est familial et qui est joyeux, parce que les fêtes d'anniversaire sont quand même assez sympas, et l'impact et l'horreur de ce qui est en train de se passer réellement. Moi, c'est vrai que quand j'ai vu que ma famille ne m'appelait pas alors qu'on avait prévu de s'appeler, je me suis dit, ah ouais, ils m'ont oublié, ils sont occupés, machin. Tu ne dis pas, il y a peut-être quelqu'un qui est décédé. Enfin, tu n'y penses même pas, en fait. Ça n'a aucune réalité. Donc, ouais, c'est un peu le double choc, quoi. De te dire, non seulement on ne va pas faire la fête, mais en plus, on ne la fera plus jamais. Enfin, c'est dur.
Donc, tu nous dis que, de manière immédiate, tu n'as pas ressenti d'émotion particulière. Tu étais plus dans le pragmatisme de dire, voilà, maintenant, il faut que j'y aille et que je sois sur place. Est-ce qu'après quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, tu as commencé quand même à ressentir des émotions désagréables, des questionnements, de la tristesse, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est apparu progressivement, ou est-ce que tu es resté quand même dans un état de sidération pendant assez longtemps?
Des questionnements, oui, parce qu'en fait, je pense que tant qu'on te dit que quelqu'un s'est suicidé, qu'il n'y a aucune raison, c'est vachement dur de lui donner une réalité. En fait, si c'est vraiment complètement absurde, t'as beaucoup de mal à assimiler l'information, alors que quand tu commences à voir qu'il y a une possible explication, en fait, t'arrives à rationaliser le fait que effectivement, c'est possible que cette personne ait fait ça parce que, tu vois. Et là, en fait, pour moi, c'est là où j'ai commencé à un peu commencer à accepter. Un petit peu, qu'il y avait eu ce décès. Mais sinon, non, j'y étais pas du tout. Même après l'enterrement, j'avais encore l'impression qu'on pouvait revenir en arrière et rembobiner, alors qu'en fait, ben, tu peux pas.
Tu nous parles de ces questionnements justement qui arrivent, de te demander pourquoi, de chercher des explications à ce geste. Qu'est-ce que tu attendais justement de cette démarche-là de questionnement et finalement d'enquête en réalité que tu as menée? Tu en attendais quoi quand tu t'es dit « bon, maintenant je vais me lancer un peu à la quête aux explications » ?
C'est pas vraiment une décision. En fait, tu vois, j'ai donc fouillé dans les affaires de ma sœur, j'ai trouvé ce journal et en fait c'est plus presque de... Enfin, t'es curieux, tu vois, tu te dis bah, « voyons, enfin... » Voyons ce qui s'est passé, puisque visiblement, il s'est passé quelque chose. Et puis, en fait, tu as envie de comprendre. Mais ce n'est pas une décision, c'est une démarche spontanée. Enfin, je pense qu'on l'a tous, à un moment, quand on perd quelqu'un, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Que ce soit un suicide ou non, hein, finalement, d'essayer de comprendre le cheminement de la personne. Parce que ça te permet aussi d'accepter ce qui est en train de se passer et de commencer un travail de deuil, finalement. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu commences à chercher, que tu trouves des trucs... que tu vois qu'il s'est passé quelque chose, bah, bien sûr. Enfin, en plus, moi, je suis d'un naturel curieux. Bien sûr que tu vas continuer à fouiller parce que tu dis, là, je trouve un journal intime, je cherche un peu plus, on me dit qu'elle était avec quelqu'un depuis plusieurs années, je cherche un peu plus, on me dit que dans la boîte mail, il y avait des gens qui l'agressaient, et voici leur nom. Et puis après, tu trouves qu'il y avait des plaintes qui ont été déposées contre ces personnes et qu'après, tu vois qu'il y a quelqu'un qui avait déménagé dans sa rue, qu'elle voyait des psychologues et voilà le nom des psychologues. Forcément, tu as envie d'aller leur parler, tu vois, tu as envie de leur dire, vous avez vu ma sœur 3 fois par semaine pendant 3 ans. On va se rencontrer et puis moi je veux des explications. Enfin, c'est forcément, plus tu vas trouver des informations, plus tu vas avoir envie d'aller jusqu'au bout de la démarche en fait.
Et justement, comme tu ouvrais finalement tiroir après tiroir, est-ce qu'il y a des moments où tu as quand même rencontré des résistances ? Par exemple, tu nous parles de ta rencontre avec des professionnels de santé, notamment dans le cadre du CMP. Est-ce que c'est une démarche qui est facile déjà à faire de ton côté ? Et qu'est-ce que tu as reçu comme accueil justement quand tu allais voir ces professionnels ?
C'est pas forcément un accueil bras ouverts que j'ai reçu parce que j'étais un petit peu agressive dans ma démarche de vouloir des explications de la part de gens qui étaient aussi démunis et touchés finalement par ce décès. Mais au-delà de ça, tu sais, il y a un secret professionnel qui font en fait qu'ils te reçoivent, mais ils te disent rien. Et du coup, c'est un peu la double frustration parce que tu dis, je sais que cette personne en face de moi sait des choses que je saurais jamais. Et ils veulent pas partager parce qu'en fait, t'as le secret médical qui perdure après le décès de la personne. Donc, en fait, ils peuvent rien te dire. Mais c'est hyper frustrant. Enfin, tu te dis, vous avez tout suivi depuis le début. Et c'est vrai que quelque part, pour moi, c'était aussi une chance, entre guillemets, de voir qu'elle avait écrit par elle-même les dialogues qu'elle avait eus avec ses psychologues. Ça m'a permis un peu de comprendre ce qu'ils se disaient. Parce que sinon, tu te dis, t'en sais rien en fait. Enfin, est-ce qu'ils l'ont aidé? Dans quel état d'esprit ils étaient? Il la voit une semaine avant qu'elle se suicide. Enfin, et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu vois, t'as envie de le savoir quand même.
Et t'as envie de savoir, justement, c'est ce qui t'a motivé dans cette quête d'explication. Tu le dis, tu es quelqu'un de nature curieuse. Et au niveau émotionnel, tu l'as vécu comment? C'est quelques mois justement qui ont suivi le décès de ta sœur, découverte après découverte. Tu t'es sentie comment? Qu'est-ce que tu as ressenti?
Mais je dirais qu'en termes de personnalité, je suis quelqu'un d'assez obstiné. Et en général, ça me sert parce que je ne laisse pas tomber. Et donc, ce déterminisme professionnellement me sert beaucoup parce que je vais insister jusqu'à ce que les choses marchent. Et donc, finalement, elles finissent par marcher. Donc, on appellerait ça plus de la persévérance dans ce contexte-là. Mais c'est vrai que dans un contexte personnel, en fait, avoir des difficultés à lâcher, c'est pas forcément bien quand t'es face à un deuil, parce qu'à un moment, il faut accepter, en fait. Et c'est vrai que tant que t'es dans l'enquête, en fait, tu commences pas ton travail de deuil. En fait, tu dis, mais on verra ça plus tard, parce qu'en fait, là, je suis occupée à faire quelque chose d'important. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, possiblement, tu peux enquêter toute ta vie, en fait. T'auras jamais les réponses, donc tu peux creuser indéfiniment. Et c'est un retour qu'on a fait aussi à mon père, en lui disant, faut un moment arrêter de chercher des réponses, parce que vous allez vous perdre. Et que ça va être plus négatif que positif. C'est une étape apparemment qui est importante pour tout le monde. Apparemment, visiblement, tout le monde passe par cette étape de questionnement, mais il faut être capable au bout d'un moment de se dire, c'est bon, j'ai trouvé les réponses que je pouvais trouver. Et accepter en fait que les individus que tu côtoies au quotidien, ils auront toujours une part d'inconnu, et qu'ils soient vivants ou décédés. Hein. Tu ne pourras jamais tout savoir, et puis il faut l'accepter et puis avancer. Hein.
Tu le dis, hein, ça peut être une démarche qui est négative, puisque finalement, on peut trouver une infinité de choses, découverte après découverte, jour après jour. Tu me dis que tu as découvert des choses qui étaient assez privées, assez intimes, puisque c'était dans le cadre d'un journal intime que tu as découvert tout ça. Est-ce que c'est d'apprendre ces choses intimes, notamment par exemple sur sa relation affective avec quelqu'un dont tu n'étais pas au courant? Est-ce que c'est des choses qui t'ont aidé ou qui t'ont plus frustré ou provoquer d'autres types de réactions, d'émotions?
Moi, je dirais que ça m'a aidée parce qu'en fait, je pensais rester sans réponse et tout d'un coup, je me rends compte que elle était en relation avec quelqu'un. Enfin, quand t'es en couple depuis 4 ans, c'est quelqu'un qui te connaît bien. Et donc, cette personne, on s'est entraidés. On est encore en relation aujourd'hui, on s'appelle assez souvent. Et c'est vrai qu'elle a pu me raconter tout le quotidien et toutes les belles choses aussi que je voyais pas forcément. Parce qu'en fait, quand t'habites à Singapour et que ta sœur est à Toulouse, t'as pas ce quotidien, en fait. Donc, toutes les choses rigolotes, ce qu'elle mangeait, les endroits où elle sortait. Enfin, du coup, t'as accès aussi à plein de belles choses. Il y a plein de beaux souvenirs que quelqu'un te raconte et te partage. Et tu vois aussi qu'il y a eu beaucoup de bonheur et ça compense. Parce que quand tu vois qu'il y a un harcèlement scolaire, tu dis, alors en fait, tout ce qu'elle a vécu, c'était dur et négatif et ça a l'air terrible. Et en fait, ça contrebalance de voir, mais elle a aussi vécu plein de belles choses, elles sont allées à tel endroit. Enfin, c'est beau aussi, tu vois. Et puis, tu as quelqu'un qui est aussi touché en même temps que toi par ce deuil et avec qui tu peux avancer.
Cette période de questionnement et de recherche d'explication, elle a duré combien de temps ?
Elle a duré longtemps parce qu'en plus, donc après la fin de la période de questionnement, je me suis rendu compte que elle voulait être écrivain. Elle avait laissé beaucoup de textes qui, pour moi, sont vraiment beaux et utiles sur ce sujet-là. Et donc, il y a aussi une période de rédaction, d'écriture. Toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont donné un coup de main parce qu'ils se reconstruisaient aussi par rapport au harcèlement scolaire et qui voulaient aider sur ce projet. Donc, en fait, quand t'écris, t'es encore dans cette démarche de chercher des informations. Donc, finalement, je dirais que ça a duré, je sais pas, peut-être 5 ans. Ça doit paraître long, mais on a tous besoin d'un temps différent, je pense.
Est-ce que tu considères que ton deuil, tu avais réussi à le faire avant ces 5 ans ou est-ce qu'il s'est poursuivi vraiment jusqu'à la fin?
Honnêtement, je pense que je suis encore en travail de deuil. Dans le sens où tu peux pas vraiment dire que t'as terminé un deuil comme ça. Enfin, tu vois, ça, c'est tout bête, mais comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai perdu la sœur le jour de mon anniversaire. Bon, chaque année quand c'est mon anniversaire, c'est des journées qui sont plus difficiles, tu vois, c'est une journée de deuil aussi, et quand tout le monde te souhaite un joyeux anniversaire, je pense pas qu'à un moment je me dirais, ah, ça y est, j'ai passé le cap, et puis je vais fêter un joyeux anniversaire. En fait, non. Enfin, tu vois, même ne serait-ce que les fêtes de Noël, quand tout le monde est à table et qu'il manque une personne, tu le sens, en fait. Enfin, tu sens très bien que ça manque à tout le monde. Enfin, c'est des événements joyeux familiaux. Il manque une personne. Enfin, tu peux pas dire j'ai fait mon deuil et ça me touche plus, tu vois. Et je pense que c'est plutôt ça, en fait, de garder ces émotions qui sont un peu douloureuses, mais qui sont humaines.
Est-ce que tu as des éléments, justement, sur comment se sont déroulés les derniers jours de ta sœur par ta famille, par sa compagne? Est-ce que tu as des informations là-dessus?
En fait, j'ai plus que ça, parce que je me souviens qu'elle voulait être écrivain. Moi, ça m'a brisé le cœur. Mais en fait, au moment où elle a pris cette décision, elle a entamé un nouveau carnet, qu'elle appelle carnet des derniers jours, où elle note en fait tous les jours comment elle se sent et ce qu'elle fait. Et c'est hyper paradoxal. Enfin, pour moi, c'était très déstabilisant. Je pense que c'est un des passages les plus déstabilisants pour moi à lire, parce que je n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un qui sait qu'il va mourir se sent aussi calme. Elle a l'air d'une sérénité absolue. Et elle dit, c'est enfin fini. Et on a l'impression que vraiment qu'elle profite de chaque moment. Je dis, mais si tu profites, continue. Et c'est, pour moi, c'était hyper frustrant en tant que grande sœur de lire ça. Parce que tu vois que pendant une semaine, tu vois, elle écrit. Et tu dis, pendant cette semaine-là, il aurait pu se passer n'importe quoi de différent. Et peut-être que ça aurait tout changé. Enfin, après, avec des sites, tu refais le monde, tu vois. Mais c'est vraiment que c'est un carnet. Alors, j'ai mis certains extraits dans le livre. Et puis, il y en a d'autres que j'ai préféré garder. Mais c'est vrai que c'est assez déstabilisant de lire quelqu'un qui te dit, je m'occupe des chats, je profite du rayon de soleil, tout ça. Et tu dis, mais comment c'est possible, en fait? Et après coup, il y a un psychologue qui m'a dit qu'en fait, c'était assez courant que les gens qui avaient pris la décision, ils se sentaient calmes. Je comprends toujours pas pourquoi, honnêtement, pour être transparente avec toi. Mais apparemment, c'était pas que elle, c'est quelque chose qui arrive régulièrement.
Tu parles du problème, entre guillemets, du secret médical aussi, qui ne t'a pas permis d'avoir rapidement des informations dont tu aurais pu avoir besoin pour comprendre. Mais d'un autre côté, à quel point tu t'es sentie soutenue dans cette démarche?
Tu veux dire par rapport au fait que les gens m'aient bien voulu me rencontrer?
Oui.
Ouais, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ils ont vu que j'allais camper devant le... Je ne sais pas s'ils rencontrent à chaque fois les personnes des familles. À mon avis, je ne pense pas. Puis après, je leur envoyais plein d'emails, de courriers recommandés. Bon, ils ne m'ont jamais répondu, parce que je pense que malheureusement, ils doivent avoir l'habitude d'avoir des gens comme ça qui insistent. Et ils savent très bien qu'il n'y a rien qu'ils peuvent te donner qui va aider, finalement.
Et au niveau de ton entourage proche, au niveau de ton compagnon et de ta famille, de tes amis, à quel point est-ce qu'ils ont été avec toi dans cette démarche? Est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où ils t'ont dit stop?
Ben si, mais en même temps, peut-être que c'est beaucoup aussi. Surtout quand tu es en couple avec quelqu'un qui vit ça. Au début, tu as envie de soutenir, mais en fait, tu ne te rends pas forcément compte que ça va durer longtemps. Et tu n'as pas de visibilité pour savoir combien de temps ça va prendre. En plus, ça dépend de chaque personne, donc tu n'as aucune chance de le savoir, en fait. Et je pense que malheureusement, tant que tu n'as pas vécu un décès par suicide, tu n'as aucune idée de ce que ça peut faire aux gens qui sont autour. Donc, je pense qu'il y a un tabou autour de ce sujet-là. C'est assez délicat, en fait, parce que tu ne peux pas parler librement. Et tu vois, je vais donner une anecdote, mais il y a des groupes Facebook où il n'y a que des frères et sœurs comme moi qui restent. Donc en fait, on est entre guillemets entre nous, tu vois. Et pourtant, il y a encore ce tabou-là, une grande pudeur dans la manière dont les gens s'expriment et très peu de communication en fait. Parce que ce tabou, tu l'intériorises aussi, de dire ben, « ça, c'est un secret entre guillemets dont je ne peux pas parler ». Et tu le portes. Et en fait, depuis que j'ai commencé ce projet, il y a plein de gens qui m'écrivent sur mon compte Instagram en me disant ben, « moi, j'ai vécu aussi la même chose que toi, je suis aussi un frère et sœur qui reste ». Il y en a plein, en fait, qui me disent ben, « c'est vachement dur et ça me fait du bien de voir qu'on peut en parler, même si moi, je me le sens pas ». La plupart des gens, ils m'ont dit ben, « moi, je n'en parlerai jamais comme tu fais », mais ça m'aide, tu vois, ça me montre que c'est possible aussi d'en parler. Et puis, indirectement, en fait, tu as le tabou autour des tentatives de suicide. Et il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont vécu ça. Et il y a un témoignage, par exemple, que j'ai reçu hier d'une jeune fille sur mon compte Instagram qui me disait ben, « en fait, j'ai fait des tentatives de suicide et tout le monde était informé parce que forcément, elle m'a retrouvée, je suis allée à l'hôpital, tout ça. Et c'est vachement dur maintenant pour moi quand je rencontre des nouvelles personnes parce que je me dis, est-ce qu'ils sont au courant, est-ce qu'ils ne sont pas au courant, est-ce qu'ils vont me juger s'ils apprennent à un moment ?» Enfin, et tout ce tabou autour de ce sujet-là, il est là parce que en fait, les personnes qui sont autour attendent qu'on vienne leur en parler et les personnes qui sont donc les protagonistes attendent que quelqu'un en parle en fait. Et chacun attend et en fait, il n'y a pas de mots qui sont posés. Et je pense que si tu ne peux vraiment pas parler d'un sujet, bah, c'est négatif pour tout le monde.
Et toi, du coup, par rapport à ce soutien qui pouvait être fluctuant justement, puisqu'il devait s'inscrire dans la durée, quand il commençait à baisser d'un côté ou de l'autre, tu le ressentais comment, toi ?
Je dirais que ce n'est pas quelque chose qui m'a manqué. Dans le sens où on est tous différents dans la manière dont on réagit aux choses, mais c'est vrai que je me sens en tout cas à l'aise d'aller trouver les choses dont j'ai besoin par moi-même. J'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de personnes qui sont là, qui me disent on te soutient, tout ça. Je pense que quand j'ai besoin d'aide, je vais la chercher ou je la demande. Mais on n'est pas tous pareils. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir besoin que de voir un soutien continu. Moi, c'est vraiment que c'est pas quelque chose qui m'a manqué plus que ça. J'avais besoin aussi de temps. Et indirectement, je dirais que dans tous les membres de ma famille sont plus repliés vers eux-mêmes le temps d'encaisser la chose plutôt que d'aller chercher du soutien et du lien social. En fait, je pense que tu as besoin de te construire par toi-même avant d'être en relation avec les autres aussi. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a manqué.
Et dans cette relation avec les autres, quand tu rencontres des nouvelles personnes, tu parlais justement du tabou qui entoure le suicide. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes relativement facilement ? Enfin, c'est sûr que ce n'est pas la première chose que tu vas dire pour te présenter, parce que ce n'est pas ça qui te définit. Mais finalement, est-ce que ce sont des choses dont tu parles ?
Mais écoute, détrompe-toi, parce que ce n'est pas la première chose dont j'ai envie de parler pour me présenter. Mais souvent, une des premières questions, quand tu es dans une soirée ou quoi, les gens te demandent dans quoi tu travailles. Et après, ils te demandent est-ce que tu as des frères et sœurs. C'est extrêmement courant. Et pour les gens, c'est une question neutre. Genre, ils n'imagineraient même pas que c'est un problème de poser ça comme question. Et c'est hyper délicat, parce que quand tu as grandi avec deux petites sœurs, et que tu les aimes et tu es attachée, tout ça, si tu dis « j'ai deux sœurs », en fait, les gens spontanément me disent « ah ouais, font quoi ?» et tout ça. Et du coup, t'es directement dans le sujet. C'est assez compliqué à gérer. Et une fois, j'ai dit « j'ai une sœur » parce que j'avais pas envie de me prendre la tête parce que j'étais fatiguée. Et en fait, je me suis sentie mal toute la journée parce que c'est pas vrai, tu vois. Ma sœur, elle a existé, je l'aime. Elle a écrit plein de textes. J'ai pas envie de la gommer, tu vois. Et puis, c'est pas juste qu'elle soit gommée juste parce qu'elle a vécu ça. Mais ouais, c'est un peu délicat des fois à aborder comme sujet. Pour moi, c'est quand même beaucoup plus facile de parler à des gens que finalement je connais pas trop, parce que je sais que quelque part ça leur apporte quelque chose aussi. Si j'en parle librement, en général, quand tu partages ta vulnérabilité, bon, tu t'exposes, c'est désagréable, surtout moi j'aime pas du tout ça, mais souvent les gens me disent « ah ben moi aussi j'ai vécu quelque chose d'un peu similaire », et je me suis rendu compte que assez régulièrement ça leur permettait de parler de sujets qui leur pesaient parce qu'ils n'en avaient pas parlé à leur entourage. Mais paradoxalement, les gens de qui je suis très proche, j'ai plus de mal en fait. Parce que leur jugement m'affecte. Tu vois, s'il y a du rejet ou quoi, je sais que ça va beaucoup plus me toucher que quelqu'un que je viens de rencontrer qui finalement ne me connaît pas. Et sans la valeur de ce qu'il peut me dire est plus faible.
Tu as donc choisi d'écrire un livre pour raconter cette histoire de recherche d'explications. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, justement, de mettre tout ça sur le papier?
Bah, écoute, en fait, c'est pas vraiment un choix. Je me suis retrouvée avec tous ces textes. Il y a des familles qui ont commencé à me dire que lire ces textes, ça les aidait, que ça débloquait des situations qui étaient quand même assez compliquées. Quand tu connais les enfants et tout ça, tu te dis, bah, je suis contente en fait que cette personne que je connais, elle puisse aller bien parce que j'ai bien voulu prêter ces textes-là. Et en fait, le fait qu'aussi ma sœur rêvait vraiment d'être écrivain, qu'elle avait bossé pour ça, que c'était... tout le monde n'a pas un rêve, tu vois, il n'est pas en train de bosser pour ça. Donc en fait, quelque part, c'est pas un choix. Je me suis dit, je suis obligée de faire ça en fait. Parce que si je le fais pas, déjà, je prive entre guillemets les autres d'un outil qui aurait pu leur être utile. Et ensuite, ma sœur sera jamais écrivain. Et pour moi, tu vois, on parlait d'acceptation. Accepter un décès, bon, bah, t'es finalement un peu obligé. Donc, au bout d'un moment, bah, tu commences forcément un travail de deuil. Mais accepter que ce rêve serait jamais réalisé, pour moi, c'était un peu la goutte d'eau, tu vois. De me dire, à cause de ces personnes-là, déjà avec tout ce qu'elle a souffert, elle accédera jamais à son rêve. Alors qu'en fait, tu vois, j'ai vu qu'il y avait une dame qui avait un prix Goncourt qui travaillait avec elle pour relire ses textes. Enfin, elle s'est vraiment donné du mal, tu vois. Donc en fait, enfin, je me suis dit, il n'y a que moi qui peux raconter notre histoire. Donc, c'est pas... Tu peux très bien faire le choix de fermer les yeux et te dire, ah, mais c'est fermé, tant mieux, enfin, c'est trop difficile, j'ai pas envie de tout ça, mais finalement, il n'y a pas vraiment de choix. Tu dis, ben, je suis obligée de le faire parce que l'autre option, c'est de rien faire en se disant que tu, indirectement, t'es responsable aussi. Tu vois, quand je vois aux infos des jeunes qui décèdent de la même manière que ma sœur, je me dis, ben, peut-être que si j'avais écrit un peu plus vite ou que je m'étais bougée un peu plus tôt, ben, ça aurait pu être évitable, tu sais pas, tu vois. Mais j'ai plus de culpabilité à rien faire qu'à faire quelque chose.
Est-ce que ça a été facile justement de faire accepter ce texte à un éditeur, en l'occurrence HarperCollins? Comment est-ce qu'on démarche un éditeur justement pour dire là j'ai quelque chose à publier, c'est quelque chose qui est basé sur mon histoire, sur l'histoire de ma sœur, avec des textes très intimes de ma sœur? C'est quoi la réaction justement quand tu proposes ça à un éditeur?
C'est intéressant ta question parce qu'en fait ça sous-entend que je serais allée vers un éditeur. Alors qu'en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé. À l'origine, je voulais vraiment pas passer par un éditeur parce que dans mon imaginaire, comme je connaissais pas, je me disais que ça serait une structure qui serait très commerciale, qui allait faire du sensationnalisme, qui allait étaler ma vie privée. En plus, ça implique de vendre des textes qui sont pas à moi, de vendre un journal intime pour qu'il soit exploité commercialement. Bah, c'est vraiment pas du tout ce que je voulais faire. Et par exemple, la lettre d'adieu, je l'aurais absolument pas partagée, tu vois, dans un contexte commercial. Enfin, donc vraiment, c'était aux antipodes de ce que j'ai essayé de faire. Au contraire, je suis allée sur une plateforme de levée de fonds et j'ai dit, ben, sincèrement aux gens, tu vois, j'ai ce projet, voilà, j'ai jamais rien écrit avant. Je ne sais même pas si le livre il sera finalisé, il n'a pas de couverture, c'est juste un travail en cours, mais soutenez-moi financièrement, comme ça, je fais ça. Et étonnamment, il y a des inconnus qui sont assez fous pour me dire, ben, tiens, je te donne de l'argent pour que tu puisses faire ton projet, toi qui n'as jamais rien écrit et qui fais quelque chose qui a l'air quand même assez... assez casse-gueule, parce qu'en fait, tu veux écrire un livre par rapport à des textes qui sont fixes, qui vont pas ensemble, parce que c'est un peu bah, forcément décousu, sur un sujet qui est assez difficile. Enfin, c'était pas forcément très bien parti. Et pourtant, t'as presque 200 personnes qui ont récolté, genre, sur la plateforme, j'ai récolté 8000 euros, donc c'est quand même pas rien, pour faire ce livre. Et t'as eu des étudiants de l'école ESSEC qui, pendant un an, ont réfléchi à la couverture, ils ont fait des brainstorming sur comment eux, qui avaient 21 ans, vivaient le harcèlement scolaire, et ils ont essayé de mettre ça en image avec une illustratrice. Enfin, tu vois, c'était beau. Puis ils ont contacté l'illustratrice de Marc Lévy, donc, qui avait fait plein de couvertures qui étaient assez graphiquement parlantes pour faire une couverture par rapport à leur brainstorming. Enfin, ils sont vraiment donnés, tu vois. Donc, moi, je voulais qu'on fasse un truc entre nous, tu vois, de communauté, de gens qui avaient vécu le harcèlement scolaire, de frères et sœurs, entre gens bienveillants, tu vois. Et j'avais mis dans mon imaginaire un éditeur vraiment aux antipodes de ce que c'était ce projet-là. Et c'était un projet de reconstruction, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes, même d'adultes, qui m'ont dit « j'ai jamais parlé du harcèlement scolaire, mais j'ai vécu ça, ou alors j'étais harceleur, et donc je t'aide, mais en fait je m'aide aussi hein, en t'aidant. » Donc voilà, le problème que j'ai eu, c'est que donc j'ai fait ce projet Ulule, j'ai imprimé le livre. Le livre a été expédié avec pas mal de difficultés parce que bah, 200 d'écriture, 200 enveloppes à écrire et tout ça. Et en fait, bah, les gens continuent à me contacter après la fin du projet en me disant bah, « nous aussi, on aimerait bien avoir un livre ». puis c'était le Covid. J'étais enceinte. Rapidement, j'étais alitée, donc je ne pouvais plus aller à la poste de Copenhague. En plus, ça coûte une fortune d'envoyer de Copenhague. Enfin, je ne m'en sortais pas, en fait. Je ne m'en sortais pas. Puis je recevais des centaines d'emails de gens qui me disaient « Moi aussi, j'ai vécu quelque chose comme ça. » Des emails personnels où ils me disaient « C'est la première fois que j'en parle. » Et moi, j'étais là, j'avais mes nausées. J'essayais de répondre à tous les emails, mais tu n'arrives pas, en fait. Il y en a plus qui arrivent que ce que tu peux répondre. Puis tu as envie de répondre à des gens de manière personnalisée. Tu ne vas pas leur copier-coller un truc, tu vois. Donc, je ne m'en sortais vraiment pas du tout. Et une amie m'a dit, je connais une agente littéraire qui est bien, qui est très bienveillante et tu peux lui faire confiance. Parle avec elle, elle te trouvera un éditeur qui ne sera pas inhumain, qui sera sensible à ta démarche et qui aura envie de sensibiliser pour aider des gens et pas pour faire du profit. Et effectivement, elle m'a mis en contact avec une équipe qui est exceptionnelle, tu vois. Enfin, je sais pas si je t'avais envoyé la lettre qu'a fait l'éditeur par rapport à ce projet-là, mais elle est trop belle, quoi. Et donc, c'est comme ça, en fait, que ce livre est arrivé en maison d'édition. C'est pas une démarche de ma part, c'est plus que j'avais plus le choix, en fait. C'est soit arrêter ce projet, soit passer par des canaux un peu plus traditionnels.
Tu disais tout à l'heure que... Tu te sentais un peu coupable de ne rien faire. Donc, c'est pour ça que tu étais passé aussi à l'action pour aller plus loin dans cette démarche. Mais finalement, après la publication, la première publication du livre, tu as eu quand même beaucoup de sollicitations auxquelles tu avais du mal à répondre parce que ça t'a un peu dépassé en nombre.
Ouais. Et émotionnellement aussi. Hein.
Ouais. Et comment t'as vécu cette période justement? Parce qu'on avait, on avait reçu le témoignage de Victoire Dosser qui était... une ancienne mannequin qui avait témoigné justement de ses troubles du comportement alimentaire dans un livre et qui s'est sentie justement dépassée après ça parce qu'il y a eu énormément de retours de personnes qui lui faisaient part de leur propre histoire et elle, ça l'a entraînée un peu dans une rechute parce qu'elle a eu beaucoup de réviviscence, de réminiscence de cette période difficile pour elle. Toi ça s'est passé comment?
Moi, je dirais que c'est le contraire parce que tu sais, j'ai ce compte Instagram que je gère et je reposte les témoignages anonymes et les gens me disent ça m'a aidé en fait de voir que tu repostes mon témoignage et que tu me le prennes au sérieux entre guillemets et j'ai aussi beaucoup de retours de gens qui m'ont dit j'ai fini cette lecture, j'ai eu envie d'en parler et ça a été le déclic en fait pour moi pour aller échanger avec mon cousin, avec mon voisin, avec mon colocataire sur des sujets dont on n'avait jamais parlé ensemble alors qu'on se voit tous les jours et finalement les gens ils vont s'adresser à moi mais ils vont aussi beaucoup s'adresser à leurs proches. Et finalement, moi, si on m'avait donné quelque chose comme ça plus tôt, j'aurais aussi pu parler à mes proches. Tu vois, j'aurais bien aimé que quelqu'un fasse cette démarche avant moi et puis moi, j'aurais pu en bénéficier. Et puis voilà. Donc, en fait, comme c'est assez positif aussi comme retour, ça ne m'entraîne pas vers le bas. Au contraire, je me dis, ça fait plein de gens que ça aide et ça donne du sens de voir que cette adolescente qui écrivait son journal toute seule chez elle, finalement, indirectement, elle a pu apporter un soutien à plein d'autres personnes qui se sont reconnues en fait, dans ces textes et qui ont pu parler grâce à cette lecture. C'est beau, en fait, de voir que par l'art, parce que pour moi, la littérature, c'est comme un peu la peinture ou plein d'autres moyens d'expression, par l'art, tu peux arriver finalement à débloquer des situations et à arriver vers un chemin de guérison.
L'idée de ce compte Instagram, donc Agathe en parle, t'es venue à quel moment et pourquoi est-ce que tu as fait cette démarche finalement, pourquoi est-ce que tu t'es dit c'est le bon canal pour en parler?
Parce que au départ, donc le projet, c'était que moi. Ensuite, ça a été les gens que j'avais contactés parce que j'avais besoin d'aide pour comprendre comment t'écris un roman. Parce que moi, j'avais jamais rien écrit du tout et c'était vraiment pas mon projet. Donc, j'avais même pas les bases, en fait. Je connaissais rien dans ce domaine. Donc, je me suis pas mal entourée. Donc, au départ, il y avait 47 personnes. Donc, il y avait des psychologues, il y avait des physiciens. Enfin, tu vois, des gens qui avaient rien à voir, mais qui me disaient, voilà mon avis, voilà mon conseil sur cette partie. Et donc, en fait, tous ces gens... Je leur envoyais des mails régulièrement, on s'appelait, tout ça. Mais après, avec la communauté Ulule, il y a des gens qui ont soutenu le projet, qui avaient envie en fait, de savoir ce qui se passait ensuite. Donc, je leur envoyais aussi des nouvelles, mais ça commençait à être un peu plus. Et puis après, donc, il y a eu tous ces élèves ESSEC qui ont travaillé pendant un an. Donc, on faisait des retours. Et puis, c'était plus simple de créer donc, un compte où j'envoyais des nouvelles. Et puis, je t'envoie une fois, en fait, tout le monde le voit. Et puis, c'est un peu moins personnalisé, mais au moins, tu peux envoyer des nouvelles régulièrement aux gens, tu vois. Donc au départ c'était que des personnes que je connaissais jusqu'à à peu près 1200 personnes, c'est que des personnes avec qui j'avais interagi soit qui avaient aidé le projet, soit qui en avaient entendu parler, soit qui l'avaient soutenu. Et après quand ça grossit un peu plus, je me suis rendu compte que ça permettait aux gens entre eux de s'exprimer Quand quelqu'un m'envoyait une ressource sur le harcèlement scolaire, par exemple, là récemment, on m'envoyait une carte de toutes les associations contre le harcèlement scolaire de France avec les numéros, tu vois. Et il y a plein de gens qui le cherchent et tu vois, je vais le reposter. Et ça permet en fait de créer un lien, tu vois. Les gens qui ont des bonnes idées ou des initiatives, je les mets en lumière et puis ça aide d'autres personnes. En fait, c'est juste un canal de communication, mais les réseaux sociaux, c'est aussi fait pour ça. C'est pas que le cyberharcèlement, tu vois. Tu peux aussi en faire quelque chose de positif.
Est-ce que tu envisages de mener d'autres initiatives qui vont dans ce sens après le roman et le compte Instagram? Là, ça te permet aussi d'en parler maintenant plus, notamment qu'on sait que dans cette période, c'est assez compliqué. On a vu aussi en début d'année ce jeune garçon de 13 ans qui s'est suicidé, également après une période de harcèlement scolaire homophobe. Est-ce que toi, tu envisages justement de mener d'autres actions, peut-être en France ou aussi dans le pays où tu habites maintenant, au Danemark?
En fait, il y a deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur. La première, c'est un projet carte postale. Donc, avant que je commence à écrire, je pensais que je ne serais pas capable en fait, d'écrire quoi que ce soit de bien par rapport au talent qu'avait ma sœur. Donc, j'avais demandé à une illustratrice qui est polynésienne et qui cherchait un peu sa place. Donc, était vraiment dans une étape de remise en question d'elle-même, de se sentir française, mais pas française, rejetée. Elle voulait être artiste, mais on lui dit qu'elle était une femme artiste. Enfin, c'était assez dur, en fait. Elle était un peu, je pense, un peu en début de dépression, tu vois. Et elle a fait cette illustration à partir d'un texte de ma sœur et on l'a imprimé sur une carte postale. Et une association a aidé à la distribuer dans des collèges et dans des lycées. Et en fait, les élèves qui recevaient cette carte postale, c'était dans un cadre donc, d'une session qui parlait de harcèlement scolaire, ils pouvaient écrire un mot de soutien à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais qui ont vécu soit du harcèlement scolaire, soit qui sont harceleurs, soit qui sont témoins. Mais c'est dur d'être témoin si tu vois des choses et si tu n'as pas osé parler, tu te sens coupable. Donc en fait, c'était collège vers lycée et lycée vers collège. Et donc chacun reçoit cette carte avec un mot de soutien qui est pour lui, tu vois, qui a été écrit à quelqu'un qui pensait à lui. Et dessus, il y a aussi le numéro de l'association qui lutte contre le harcèlement scolaire. En fait, c'est quelque chose que tu gardes sur ton bureau, qui te fait du bien quand tu le vois, mais qui aussi est là pour le moment où ça ne va vraiment pas du tout dans l'année, pour te rappeler que tu as un numéro, tu peux l'appeler de suite si vraiment ça ne va pas. Donc ce projet, je le continue parce qu'en fait, je reverse mes profits d'auteur pour acheter des cartes postales pour qu'on continue. Mais déjà, ils sont allés dans une centaine d'établissements l'année dernière, donc déjà, c'est pas mal, tu vois, c'était un bon début. Ça, c'est un premier projet. Et après, j'ai un second projet qui est assez... Qui peut être un peu atypique parce que, tu l'as vu, ma sœur, elle était homosexuelle et c'est aussi pour ça que le harcèlement scolaire, il a pris une telle ampleur, je pense. Mais j'ai échangé avec un ami qui m'a dit « Il faut pas que tu dises que ta sœur, elle a été harcelée parce qu'elle était homosexuelle. » Parce qu'en fait, c'est un peu la même chose que de dire d'une femme qu'elle a été violée parce qu'elle était en jupe, tu vois. Ça responsabilise la victime. Et ça donne l'impression que le harcèlement était justifié. Alors qu'en fait, non. Tu dis qu'une femme, elle a été harcelée, qu'elle a été violée, point. Et de la même manière, tu dis qu'une victime de harcèlement scolaire, elle a été harcelée, point. Pas il a été harcelé parce qu'il était gros, pas parce qu'il avait des lunettes, pas parce qu'il était roux. On s'en fout, en fait, de la raison, c'est pas le sujet. Et donc, j'ai vraiment essayé de séparer, entre guillemets, ce sujet, de parler de ma sœur comme je la connaissais, et pas de focaliser sur ce thème-là. Mais c'est vrai que... J'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages de jeunes qui m'ont dit « Je suis harcelée pour cette raison-là et comme je n'ai pas fait mon coming out, en fait, je ne peux pas demander de l'aide. » Et je suis vraiment dans des situations difficiles. Il y a des jeunes qui m'ont écrit dans des états de détresse extrêmes, au point que je les ai appelés directement parce que je me suis dit « Enfin, si j'attends 5 minutes, peut-être que ça... » Enfin, tu vois, tu ne sais pas. Et du coup, j'ai contacté la DILCRA, donc le ministère de la lutte anti-discrimination et anti-homophobie, en leur disant « Ben voilà qui je suis. » Ma sœur, vous avez écrit un email, vous n'avez jamais répondu, mais aujourd'hui j'ai un projet de sensibiliser au harcèlement scolaire LGBT dans les collèges et je veux des fonds pour mener cette action et c'est votre devoir de me donner ces fonds pour que je puisse faire ce projet. Et en fait, ils ont été vraiment très réceptifs. J'ai parlé avec l'équipe qui était hyper humaine, ils m'ont dit on a envie de t'aider. Ils m'ont donné des fonds donc l'année dernière. Et je travaille avec un collège dans lequel on va tourner, puisqu'en fait, on voulait vraiment des acteurs qui soient aussi des jeunes qui ont vécu ces événements. Et on est en train de faire un projet de réalisation. L'origine, je voulais le faire moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on allait utiliser une boîte de production avec des gens qui sont formés et tout ça, parce que c'est assez technique. Mais là, on a reçu plein de candidatures de jeunes qui voulaient être acteurs. Et on en a une en particulier... tellement talentueuse. C'est juste incroyable, quoi. L'émotion qu'elle sait faire passer, la sensibilité qu'elle a. Et je suis hyper fière de travailler avec des gens qui ont autant de talent pour faire cette vidéo de sensibilisation qui va passer dans les collèges et les lycées. Mais tu vois, c'est des projets annexes. Je ne vais pas demain créer une association ou quelque chose comme ça. Je préfère après donner le relais à des personnes qui sont formées Il y a déjà beaucoup de choses qui se font, qui sont bien. Et je pense que c'est ce qui se fait en ce moment qui doit être mis en lumière et pas forcément de créer autre chose. Tu vois ?
Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que les regards changent sur ce sujet avec toutes les initiatives qui se créent aujourd'hui, avec les initiatives que tu portes aussi ? Est-ce que tu as l'impression qu'à l'échelle de la société française, il y a une vraie évolution des regards sur ce sujet ?
Pas du tout. Je vois une grande frustration des parents qui sont extrêmement démunis, d'enseignants qui disent « je ne sais pas comment me former » ou « je voudrais me former mais je ne trouve pas les budgets ». Quand je parle avec des gens de la DILCRA, ils me disent aussi qu'ils font tout ce qu'ils peuvent mais qu'ils n'arrivent pas à se coordonner de manière, enfin, forcément de faire tout ce qu'ils aimeraient faire en tout cas. Et donc non, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Par contre, il y a une vraie volonté de beaucoup de gens de changer les choses et tu as aussi une ouverture de la parole assez générale. De parents en fait qui se disent ben j'ai pas été confrontée au harcèlement scolaire mais ça pourrait arriver demain et qui ont envie de se renseigner et je trouve que c'est un vrai point de départ en fait se dire j'ai envie de me renseigner et donc j'accepte que je sais pas tout et que je pourrais apprendre des choses sur ce sujet là ben c'est hyper bon signe parce que ça veut dire que si globalement collectivement on peut avoir envie de s'intéresser ben c'est le point de départ en fait c'est comme ça que tu développes ton empathie quand tu veux te renseigner et j'ai essayé vraiment de faire un livre qui soit pas lourd à lire mais au contraire, qu'il soit vraiment partager la vraie enquête et emmener les gens avec moi dans ce cheminement, mais qu'il ne soit pas déprimant. Parce qu'en fait, je me suis dit, moi, en tant que jeune diplômée, je n'aurais jamais lu, après ma journée de travail, un livre sur le harcèlement scolaire. Enfin, c'est lourd, ça a l'air un peu technique, je ne me sentais pas concernée. Mais par contre, si quelqu'un m'avait dit, bah, tiens, il y a ce livre, c'est une histoire vraie. C'est une fille, elle est à Singapour, elle raconte un peu son quotidien, elle fait une enquête, c'est les vrais documents de police que tu peux voir, tout ça. Je pense que je l'aurais lu. Tu vois, je pense que ça m'aurait intéressé et j'aurais eu les clés ensuite pour dialoguer en fait sur ce thème-là parce que si t'as pas vécu le harcèlement scolaire, en fait, tu passes vraiment à côté de tout ce que ça peut être en termes d'intensité, en termes d'impact et puis ça touche des gens que tu connais en fait. Enfin, quand on dit que c'est une personne sur cinq, en fait, c'est plein de gens que tu vois mais ils te le disent pas. Et si toi t'es pas un minimum sensibilisé, ben tu peux pas avoir de dialogue en fait. Tu comprends pas ce qu'on te dit.
Et pour toi, qui est cette expérience internationale donc de la France, de Singapour, du Danemark, est-ce que tu as l'impression que selon les pays, il y a des initiatives qui sont plus ou moins utiles, des regards qui sont plus ou moins différents ? Comment est-ce que tu appréhendes justement ces différences culturelles ?
Mais moi, j'adore par exemple vivre au Danemark parce que tu vois, là maintenant, j'ai eu des enfants, ils ont des cours d'empathie à 3 ans. Et même en tant qu'adulte, tu as une bienveillance et une ouverture d'esprit qui fait que tu n'es jamais jugé. Sur ce que tu fais, tu peux dire ce que t'as envie et tu peux être qui tu veux et on va pas te juger sur ton identité, tu peux t'habiller comme tu veux par exemple, c'est tout bête mais en France si tu t'habilles comme tu veux, alors déjà si t'es une fille que t'es en jupe tu te sens pas en sécurité partout et puis être différent d'un point de vue vestimentaire c'est quelque chose qui va se remarquer dans l'espace public alors qu'au Danemark ça se remarque pas et même quand on a des stars, donc des gens qui sont vraiment très connus la règle au Danemark c'est de faire comme si t'es quelqu'un de normal, personne les regarde dans les métros enfin ils sont libres en fait. Et toi aussi, tu es libre de faire ce que tu veux et tu ne seras jamais observé dans l'espace public ou jugé dans l'espace privé. Et c'est très agréable, je trouve.
Dans ton livre, il y a quelque chose qui m'a un peu déstabilisé vers la fin puisque tu proposes une fin alternative sans vraiment prévenir le lecteur. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix aussi de réécrire un peu l'histoire ?
C'était assez spontané, je veux te dire. Je n'ai pas réfléchi plus que ça. J'ai trouvé des éléments. Au départ, j'ai essayé de les rassembler. Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, je vais juste raconter ce que ça aurait pu donner, ces éléments. Mais tu vas être étonnée d'apprendre qu'en fait, c'est un livre à double lecture. Et qu'en fait, depuis le tout premier chapitre, depuis le tout premier paragraphe, tu as des indices qui t'expliquent ce qui va se passer dans le dénouement. Donc, en fait, j'ai travaillé avec un expert de la symbolique qui m'a aidé à faire en sorte que tous les prénoms, toutes les couleurs, tous les chiffres, tous les titres de chapitres, ils aient une double signification. Et on a aussi mis ensemble peut-être qu'il y a une cinquantaine d'informations où on te dit en fait ce qui va se passer à la fin et qu'il va y avoir ce dénouement. Donc en fait, c'est un peu caché. Mais c'est vrai que par exemple, on te dit du chapitre 1 à 6, c'est des vrais documents. Enfin, c'est des vrais partages de journal intime. Et on te le met à chaque fois, à chaque partie de journal intime, on te dit qu'est-ce que c'est et où ça a été retrouvé. Et tu vois qu'au dernier chapitre, ça y est plus. Mais c'est, après, effectivement, c'est subtil. Il y a des gens qui détestent, qui me disent « Mais pourquoi tu ne dis pas juste qu'elle est décédée et finir sur une fin réaliste mais triste ?» C'est vrai que ma sœur, elle n'aimait pas du tout les romans tristes. Elle détestait les romans qui se finissent mal. Je pense que ça aurait été un très mauvais hommage de faire un truc un peu glauque, déprimant, lourd à lire. Ça incite pas non plus à la libération de la parole. Au contraire, ça fait peur. Et en général, ce qui fait peur, t'as pas envie de t'y confronter. C'est aussi une manière pour moi de rendre l'expérience de lecture aussi un peu plus facile, un peu plus douce. Je trouve que dans la poésie, dans l'imaginaire, t'as aussi un échappatoire qui est salvateur des fois aussi. On a besoin de rêver, en fait. Donc, ça m'a paru avoir du sens à condition d'être transparente dans l'épilogue.
Pour conclure sur une note positive, ouais. Est-ce que tu veux bien nous partager un souvenir que tu as avec ta sœur qui te fait plaisir quand tu y repenses?
J'ai un souvenir que je peux te partager. En fait, dans ma famille, tous les dimanches matins, on partait avec que notre père à la piscine, puisque c'était la matinée où ma maman pouvait avoir un peu de temps pour elle. Et donc, on y allait toutes les trois et c'était hyper joyeux parce qu'on faisait donc avec, tu sais, toutes les ceintures et toutes les planches de la piscine, on faisait des sortes de gros radeaux. Alors, le monsieur de la piscine était jamais très content de nous voir arriver parce qu'il savait qu'après il aurait tout arrangé et que voilà, il nous regardait toujours d'un mauvais œil, mais on s'amusait énormément à construire une sorte de radeau, à grimper dessus toutes les trois et à essayer de... Ça a jamais fonctionné, honnêtement. On n'a jamais réussi à faire quelque chose de propre où on pouvait monter toutes les trois. En général, il y en avait deux qui montaient, puis à la troisième, c'était raté. Mais on a fait ça pendant pas mal d'années, en fait, d'aller tous les dimanches matin à la piscine toutes les trois, et c'est vraiment des grands moments de complicité et de joie. Un peu en plus, la piscine, c'est... Enfin, plus tard, t'as cette relation au corps qui fait que tu te sens jugé, tout ça, t'es pas forcément à l'aise d'aller à la piscine, mais quand t'es enfant, aller à la piscine, c'est trop rigolo. Et c'était aussi un temps avec notre père tout seul qui était un peu privilégié, un peu plus intime, où il partageait des choses sur sa vie, où on lui posait plein de questions, il faisait ses trop de questions, mais il répondait toujours à la fin. Enfin, c'était chouette, c'était vraiment des bons moments.
Mais il me reste à te remercier et à recommander encore une fois ton ouvrage, Le Livre de Liane, paru cette année chez HarperCollins, qui est vraiment très très bien, que je recommande fortement. Merci beaucoup Agathe pour ce partage et pour tout ce que tu fais au quotidien pour lutter contre le harcèlement scolaire.
Merci.
Merci. Vous venez d'écouter Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou 5 étoiles sur Spotify Mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedessciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés. Et à très bientôt.